Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 novembre 1947, l'avion du général Leclerc s'écrase dans le Sahara. En 1947, Philippe Leclerc de Hauteclocq est un héros national. À seulement 45 ans, le libérateur de Paris et de Strasbourg est général d'armée. Titulaire de toutes les plus hautes décorations, il vient tout juste de rétablir l'autorité française en Indochine après avoir refusé la fonction de haut commissaire à Saïgon. Il est nommé inspecteur général des forces armées en Afrique du Nord. Au matin du 26 novembre, il s'envole pour l'Algérie depuis l'aéroport de Villacoublay. Il est accompagné de 6 membres de son état-major. Son avion, un B-25 Mitchell, rebaptisé Tailly 2, est piloté par le lieutenant François Deluc. L'après-midi et le lendemain sont consacrés à des manœuvres interarmées. Le 28 novembre, Leclerc gagne l'aérodrome d'Oran. Le B-25 décolle à 10h17 pour Colombéchar, aux portes du Sahara. Originellement prévu à 11h45, l'atterrissage est par deux fois repoussé d'un quart d'heure par l'équipage. À 12h15, l'avion n'est toujours pas visible. Quelques heures plus tard, une épave est découverte à 60 km au nord de Colombéchar. Il n'y a pas de survivants. Sous un bout d'aile, un tronc humain décapité est retrouvé. Les photographies et les papiers d'identité extraits des poches de la vareuse permettent d'identifier l'ancien chef de la 2e division blindée. D'emblée, la presse relate un premier message officiel. L'avion du général Leclerc s'est écrasé contre une colline. Pourtant, les débris sont récupérés à 500 mètres du premier relief. L'hypothèse d'un complot est rapidement échafaudée. Les services secrets soviétiques et britanniques sont accusés. Pourtant, la concentration des débris dément toute explosion en vol. Une minutieuse expertise des moteurs écarte l'idée d'un sabotage. Les conditions météorologiques n'expliquent pas l'accident. La tempête de sable annoncée n'empêche pas l'atterrissage à Colombéchar. Le vol se déroule sans difficulté, jusqu'à 11h40, où Deluc décide de décrocher de son altitude de croisière pour se placer à quelques dizaines de mètres au-dessus de la voie ferrée Méditerranée-Niger. C'est là, à mon avis, écrira gravement le général de Vitrolles, responsable de l'enquête de commandement, la faute capitale qui est à l'origine de l'accident. Le pilotage est désigné comme coupable. L'enquête livre la cause probable de cette décision, le mauvais équipement radio de l'aérodrome de Colombéchar. En raison des nuages, Deluc est contraint de suivre le radioguidage de la base aérienne pour atterrir. Aussi préfère-t-il se fier aux rails. Or, la descente intervient 20 minutes avant le crash, qu'elle n'explique pas à elle seule. La commission d'enquête en décide autrement. Elle parle d'indiscipline de vol et de faute grave. La clôture d'instruction, c'est-à-dire le rapport d'enquête finale, martèle, il semble qu'influencé par la personnalité du général Leclerc, le lieutenant Deluc ait accepté des risques qu'un pilote aussi confirmé n'aurait jamais dû assumer. La commission d'enquête souligne deux caractéristiques essentielles de l'accident. Fracture de l'avion sur le remblai du chemin de fer et concentration des débris. Elle en ignore trois autres. La ligne téléphonique jouxtant la voie ferrée est demeurée intacte. L'absence de cratères et de labourage du sol. L'avion a frappé le sol perpendiculairement à l'axe du chemin de fer. Ces trois éléments laisse à penser que le B-25 est tombé à plat, comme une feuille morte, à faible vitesse, en virant au-dessus des rails. Cette évolution correspond à une chute en vrille qui peut procéder de trois facteurs: une aggravation des conditions météorologiques, une erreur de pilotage ou un défaut de centrage. L'histoire du bombardier B-25 transportant Leclerc incite à privilégier la troisième. Fin 1946, il est transformé à Casablanca pour servir au transport civil. Armement et plaques de blindage sont ôtées. Deux réservoirs ajoutés, une cabine aménagée à l'arrière avec six fauteuils et surtout une couchette dans le poste de mitrailleur de queue. Le centre de gravité de l'avion est alors modifié. Une consigne formelle accompagne la sortie de chantier de l'appareil, tant au décollage qu'à l'atterrissage, personne ne doit occuper la couchette. Dès lors, un scénario tragique se dessine. La présence ou le déplacement de passagers en queue de l'avion modifie son centrage au moment où, volant à vitesse réduite et à basse altitude, il est dans une configuration proche de celle d'un décollage. Le pilote perd le contrôle du B-25 qui part alors en vrille. Le 2 décembre 1947, les corps des victimes sont transportés par train à Alger. Les 12 cercueils sont ensuite embarqués sur le croiseur Émile Bertin pour rejoindre Toulon 3 jours plus tard. Une grève des cheminots oblige à les transférer à Paris par la route. Le 6 décembre, le cortège funèbre emprunte l'itinéraire par lequel la 2e division blindée s'est infiltrée dans la capitale lors de sa libération. La dépouille de Leclerc est conduite en l'église Saint-Louis des Invalides, où le gouvernement décide de l'inhumer. Charles de Gaulle est le premier à venir se recueillir. Le lendemain, à 10 heures, le char Alsace emporte les restes du libérateur de Strasbourg à l'Arc de Triomphe, où les anciens de la 2e division blindée, mêlés à des centaines de milliers de Parisiens, lui rendent un dernier hommage. Une foule impressionnante l'accompagne le 8 décembre en la cathédrale Notre-Dame de Paris, où sont célébrées les funérailles en présence des plus hautes autorités de la République. En 1952, Philippe Leclerc de Hautecloque est élevé à titre posthume à la dignité de maréchal de France. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres. C'est Johnny Hallyday qui nous accompagne à l'occasion du 5e anniversaire de sa mort. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, c'était en 1976, Gabriel.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine force de l'amour. J'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Gabriel,
Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Oui, je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. La nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Ma place, oui ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Oui, j'ai refusé
mourir d'amour enchaîné.
Oui, j'ai refusé
mourir d'amour enchaîné.
Oui, j'ai refusé
mourir d'amour enchaîné.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres préparés par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons par le livre de Dan Jones aux éditions Le Cherche Midi, Croisé. En 1095, le pape Urbain II, profitant de la menace musulmane sur l'Empire d'Orient, exhorte ses fidèles à délivrer la Terre Sainte de l'infidèle. Les volontaires vont être légion. L'absolution de leurs péchés leur étant promise. La première croisade s'achèvera par la prise de Jérusalem, vécue par les croisés comme une libération et les musulmans comme une terrible humiliation. Et l'Europe et le Proche-Orient vont s'enliser dans une guerre dont les répercussions sont encore tangibles aujourd'hui. Ce roman historique, écrit par un historien, est divisé en trois parties. La première se penche sur les événements et les conflits à l'origine de la première croisade. La deuxième nous retrace la croissance et le développement des États croisés en Syrie et Palestine avec deux événements majeurs. Le siège d'Édesse en 1144 et la chute de Jérusalem en 1187. La troisième nous fait revivre les efforts désespérés des chrétiens pour reconquérir Jérusalem. Nous côtoyons tout au long de cette épopée des personnalités illustres, mais aussi les individus chrétiens, juifs ou musulmans, hommes ou femmes. Croisé, c'est signé Dan Jones et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Le bec de canard de Gilbert Sinoué aux éditions Gallimard. À Berlin, en 1911, Caillaux, président du conseil Joseph Caillaux, propose aux Allemands de leur transférer une partie du Congo français contre la partie orientale du bec de canard et le champ libre au Maroc. Ce territoire se trouve au nord du Cameroun. Il est proche du Tchad. Son nom est dérivé de sa morphologie. Ce roman, suite de l'île du Couchant, nous retrace la prise d'Alger, la chute d'Abdelkader et l'instauration du protectorat. Un pan de l'histoire du Maroc, merveilleusement narré par la plume remarquable de Gilbert Sinoué. Le bec de canard de Gilbert Sinoué, s'est publié aux éditions Gallimard. Et j'achève cette chronique par Le prisonnier volontaire de Jack Fairweather, s'est publié aux éditions Flammarion. Le 19 septembre 1940, les nazis tiennent Varsovie. Des milliers de Polonais, médecins, professeurs, écrivains, avocats, juifs ou catholiques, sont arrêtés dans la rue pour être fusillés ou incarcérés. Les prisonniers sont enfermés à Auschwitz. Witold Pilecki, 38 ans, père de 2 enfants, propriétaire terrien, sans passé politique connu, décide de se porter volontaire pour infiltrer le camp, monter un réseau clandestin et réunir des preuves contre les crimes nazis. Il y arrivera, mais en raison de son positionnement politique, il sera à la fin de la guerre, par le truchement d'un simulacre de procès, assassiné par les communistes le 25 mai 1948. La vie d'un héros exceptionnel, retracée par un reporter de guerre dans le cadre d'une enquête minutieuse reprenant des documents d'archives et des photos de l'époque. Voilà ce que nous propose ce livre, l'histoire vraie du résistant polonais qui a infiltré Auschwitz, prisonnier volontaire, de Jack Fairweather. C'est publié aux éditions Flammarion. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique. Nous nous séparons en chanson avec toujours Johnny Hallyday, un titre de 1976, peut-être son plus beau, Requiem pour un fou. Et je remercie Thomas qui a réalisé cette émission.
Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans aide. Dites au curé, dites au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou. We'll be right back.